Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Et aujourd'hui, on est à Grenoble dans la galerie Momie et je reçois Florent Maudou. Ça va ?
Salut Alexandra, oui, ça va.
Je suis un peu, émue, impressionnée parce que ce que je disais à Pat, donc, qui est le directeur de Momie tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi j'ai commencé mon tout premier comics, c'est un comics Batman, un long Halloween, mais mon tout premier comics indé, c'est Freak Squill.
Ah d'accord, oui.
Ouais, c'est un copain de fac qui me l'a donné. Alors c'est drôle parce qu'au début il m'a dit c'est du label 119, je crois que ça va être bien, je crois que ça va marcher. Plus tard, il y a un truc qui s'appelle Moutafoukaz. Ah ouais, c'est quoi Vraiment, ça me saute à l'esprit comme ça. Il me dit, mais ça va te plaire. En plus, il y a grave des meufs et tout, c'est trop bien. Donc voilà, t'es une de mes premières.
C'est marrant, puis le comics indé, d'accord.
Ouais, en tout cas, il me l'avait, c'est vrai, vendu comme ça.
Non, mais c'est vrai que c'est difficile à classer. Hein. On n'est pas BD, on n'est pas comics, on n'est pas manga. Oui, comics indé, c'est... C'est une belle étiquette, ouais.
Ouais, en tout cas, c'était ce qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, ça change beaucoup, tu vois.
Oui, ça bouge. Ouais, les lignes bougent beaucoup.
Ouais, complètement. Pour commencer, déjà, est-ce que tu peux revenir un peu sur toi, te présenter qui es-tu ?
Vite fait, j'ai fait de l'illustration figurine un peu à la Warhammer à l'époque de confrontation chez Rackham. Puis ensuite, j'oublie le fait que j'ai fait de l'animation dans le jeu vidéo chez Eden Games à Lyon. Et puis voilà. Et puis ensuite, je lance Freak Squill. Je rencontre Ankama et le label 619 et Run en particulier. Et c'est le début d'une grande aventure avec le label.
C'est un coup de foudre.
On peut parler de coup de foudre. C'est vrai que c'est une rencontre humaine et une aventure qui dure depuis 15 ans. Puis on grandit au contact de la BD, au contact des BD qu'on fait. Et puis Freak Squill, ça marche bien. Donc du coup, coup de bol, je rencontre mon public et notre public du label 119. Et comme tu disais, on est un drôle de label parce que tu vois, ça a été fondé par Run. Et Run, il a dit un truc intéressant en interview l'autre jour. Il a dit que lui, quand il a fait Moutafoukaz, c'est parce qu'il était entré dans une librairie, il avait vu qu'il n'y avait rien qui ressemblait à ce qu'il voulait faire. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, je suis moins aventurier quand c'est en voyant qu'il y avait des gens qui faisaient ce que je voulais faire que je me suis mis lancé dans la BD.
C'est deux directions différentes, voilà, mais vous vous êtes retrouvés.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu Moutafoukaz, je me suis dit, tiens, Ankama, ils font du manga, ils font aussi Moutafoukaz, peut-être qu'il y a de la place pour un projet comme le mien. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fini par envoyer mon dossier à Ankama après avoir essayé de percer chez les autres éditeurs, quoi.
Ouais, et t'es aussi donc scénariste et dessinateur. Est-ce que ça a commencé comment tout ça ? T'as débuté par quoi et...
Comment j'ai débuté pour pouvoir revenir à l'ère des dinosaures, on va juste évoquer l'adolescence, les copains de l'école qui regardaient des petites BD que je faisais. Et moi qui me disais, tiens, je veux faire des mangas comme Katsuhiro Otomo ou Rumiko Takahashi, tu vois, et du coup, je fais des pages, je tombe énormément de pages, beaucoup de BD, et du coup, en bossant pour les univers des autres dans l'animation, dans le jeu vidéo, dans la figurine, j'ai fini par avoir eu envie de me dire, ok, là, j'ai l'âge, j'ai 28 ans, à l'époque, et il faut que je fasse un truc à moi, sinon je passerai à côté de tout ça.
Besoin.
Ouais, c'était un besoin. Et surtout, c'était déjà un besoin à l'époque parce que c'était un moyen d'évasion. C'était sortir du réel, sortir aussi d'un monde du travail qui s'annonçait. Les jeunes aujourd'hui, ils ont l'impression que leur monde est pourri. En fait, nous, on avait déjà l'impression que c'était le cas. Il y avait le No Future, ça existait déjà à l'époque. C'est pas pour dire que c'était pire avant ou mieux maintenant, j'en sais rien, c'est juste pour dire qu'on avait besoin de se trouver des échappatoires et que ça c'était mon petit trou pour sortir de la prison, quoi.
Et donc beaucoup plus inspiration manga pour tes débuts, t'es plus lecteur de manga
Plus lecteur de manga à l'adolescence. Mais sinon, pendant l'enfance, de tout, c'est-à-dire tout ce qui me tombe sous la main, en particulier les aventures de Picsou quand j'étais vraiment très jeune. Puis ensuite, j'allais à la bibliothèque et je lisais beaucoup d'Astérix et en particulier de Gaston Lagaffe, que j'aimais beaucoup.
Du classique franco-belge.
Et ensuite, à l'adolescence, effectivement, il y a une espèce. Je découvre le manga avec une épiphanie. Et puis, petit à petit, je reviens vers la BD européenne via l'univers de Metal Hurlant, Jodorowsky, Moebius. Voilà. Puis,
d'où dans ta bibliothèque idéale, voilà. Dans l'exposition à la Galerie Momie, la caste des Métabarons.
La caste des Métabarons, ouais, qui a laissé beaucoup d'empreintes dans Funérailles.
Ouais. Ouais, carrément. Au niveau de ton process, quelle est l'étape de création que tu préfères ?
Je crois que je préfère le storyboard. Okay. C'est le moment où le texte devient des images. Parce que moi, je suis pas. J'ai commencé en faisant de la BD, donc dans du storyboard, en faisant des petites BD pour les copains. Et du coup, c'est le moment où j'ai vraiment l'impression de créer parce que c'est là où toutes les vraies contraintes de narration se posent, c'est-à-dire la scénographie, est-ce qu'elle est convaincante ? Est-ce que les actions que j'ai prévues pour les personnages, ça fonctionne en image ? Puis je pose aussi les bulles, les textes, et je vois si les textes fonctionnent aussi, parce que c'est bête, mais t'as très vite fait d'écrire des textes qui sont descriptifs, qui posent la situation ou qui expliquent de manière bête et méchante ce qui se passe, et ça c'est horrible.
Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on voit que ça marche pas ? On recommence, évidemment, mais c'est pas un peu frustrant ou...
Non.
T'es habitué peut-être aujourd'hui aussi.
J'ai l'habitude justement, peut-être, ouais, et puis surtout, je suis content d'avoir détecté que ça marchait pas. Parce que tu te dis, ah, ouf, heureusement j'ai détecté la couille avant que ça devienne un vrai problème au niveau du dessin. Parce que c'est là où tu écluses les idées à ce moment-là. C'est au storyboard. C'est là où tu vois si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, bah, tu te dis ok. Au moins j'ai vu que ça fonctionnait pas. Je peux toujours retaper la scène. Je peux toujours réutiliser des images qui fonctionnent bien elles. Et ensuite tu fais un espèce de jeu de puzzle et dans ta page et tu crées une narration qui va mieux fonctionner. Et franchement, c'est hyper exaltant de se dire « Ok, là, je viens d'éviter un écueil à ma BD. » Ça, c'est, moi, je trouve ça plutôt rassurant de se dire « On a encore la capacité j'ai encore la capacité à revoir ma page et à me dire je vois, je détecte les bêtises que j'ai faites. » Au lieu de les laisser passer en mode « Ouais, non, mais tout se passera bien, les lecteurs, ils adoreront. »
Oui, t'as toujours autant de recul, quoi, sur ton travail.
J'arrive à avoir du recul, ouais, mais ouais. C'est plutôt agréable. J'arrive à être lecteur de mon propre travail, c'est plutôt bon signe.
Mmh. Et je disais tout à l'heure, tu débutes avec Freeskill du coup. Qu'est-ce que ça représente pour toi les monstres et quel a été le début de cette histoire avec du coup cette série ?
Je pense que les monstres, ça représente la différence avec et c'est d'où le titre d'ailleurs Freeskill parce que en fait c'est inspiré de Freaks d'ailleurs de Todd Browning et ça devait être le titre à l'origine. Et puis on m'a dit non, c'est un problème, c'est déjà un film, possiblement que ça peut être une BD. D'ailleurs, je crois que Freaks de Todd Browning a aussi inspiré les X-Men, c'est-à-dire le super-héroïsme, mais la différence dans le super-héroïsme, d'où dans X-Men le propos de la différence qui est
très politique
aussi. Très politisé, très intéressé par l'inclusion, enfin déjà à l'époque quoi. Même le film parle de ça, c'est-à-dire quand t'as un ado qui vient voir ses parents et qui fait mais si moi je suis un mutant, ça vous fait quoi ? Puis le père qui fait je sais plus exactement, mais il dit non mais pas de ça sous mon toit, un truc comme ça. Enfin tu comprends tout de suite le thème quoi. Donc moi ouais, je pense que c'est tout simplement de là d'où vient cette fascination pour le monstre, la créature différente.
Tu te sens différent, toi, des autres ? Bon, un petit psychologie dans le podcast.
Oui, bah, c'est ça, bah, bien sûr, mais c'est normal. Mais oui, bah, de toute façon, quand t'es un gosse qui se définit par le dessin au milieu des autres gosses qui se définissent par le sport, ben, t'es différent, t'es un peu bizarre. Et puis bon, moi, je suis d'origine asiatique. Tu vois, à un moment donné, tu creuses cette différence, tu te dis, mais attends, c'est quoi le truc ? Est-ce qu'on est tous obligés de manger du riz et de faire du kung-fu ? Bah, de facto, en fait, j'ai bouffé du riz et je continue à avoir des sacs de 25 kilos de riz chez moi et j'ai fait du kung-fu. Mais aujourd'hui, voilà, c'est digéré. Je fais de l'escrime médiévale avec des blancs et ça fait pas moi quelqu'un de différent. Ça me permet juste, voilà, je me suis posé des questions.
Ça te définit toi en tant que personne et tes goûts,
oui,
quoi.
Ouais, ouais. Oui, voilà. Et encore, maintenant, je vois que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient blancs et qui étaient exactement comme moi. Ou gauchers, ou qui mangent du riz, ou... voilà, c'est pas si important. Mais quand t'es gosse, c'est un truc qui te définit beaucoup. Ouais. C'est difficile de sortir d'un carcan quand t'as la société qui te dit des choses.
Te stigmatise beaucoup.
Oui,
quand
oui,
t'es enfant
oui,
et ouais. Tu rentres dans ces cases-là, ouais.
Ouais, puis t'as envie de te définir aussi comme ça parce que des fois c'est gratifiant. Mais bon, ouais, moi j'ai la chance de faire partie d'une communauté où t'as beaucoup de clichés gratifiants. Toi, tu quand tu vois un Asiat, tu dis ah bah sa civilisation, elle a construit la muraille de Chine. Ils ont tous un truc mystérieux qui font qu'ils sont à la fois pianistes et ingénieurs en aéronautique, quoi. Enfin, tu t'imagines des tas de trucs débiles qui sont issus de la pop culture. Mais et puis à un moment donné, toi, tu te dis ah ouais, ouais tu penses que enfin, t'imagines des trucs un peu cons, quoi, qu'il y a des différences, et en réalité, il y en a pas. Donc, franchement, il y en a pas, quoi.
Ouais, clairement. On parle de monstres, mais on parle aussi beaucoup de femmes. On voit énormément de femmes dans toutes tes productions.
Oui.
Est-ce que c'est important pour toi de placer les femmes dans les comics, et quel regard tu as sur leur place aujourd'hui ?
Pour moi, c'est important. C'est aussi avant tout un plaisir. C'est-à-dire que j'aime beaucoup créer des personnages féminins. Je pense que j'aime beaucoup me projeter aussi dedans. Et comment dire, vivre aussi par procuration une vie que je ne vis pas en tant qu'homme. Et du coup, ça me pose question. Ça me pose question par empathie avec ces personnages-là. Ça me permet de mieux comprendre aussi les femmes, ma femme, dans ce qu'elle vit par rapport à son physique, par rapport au physique des autres. Du coup, moi, ce qui me plaît dans ce dessin des femmes, c'est de montrer la beauté au travers des défauts. Parce que... les défauts de ma femme, je les vis aussi, en fait. Et ses qualités aussi. Et j'ai envie de mieux comprendre ça en construisant des personnages qui ressemblent à quelqu'un qui m'est proche. Et du coup, avant, c'était par fascination, parce que j'étais adolescent et que je me disais, waouh, les femmes, c'est mystérieux et tout, tu vois, il se passe un drôle de trucs quand même. Puis t'as cette libido qui te bouffe la tête. Puis en grandissant, j'avais un peu peur finalement que le fait d'avoir, entre guillemets, passé le cap et d'être devenu adulte, ça me fasse perdre cette fascination. Et heureusement, non, coup de bol. Et du coup, c'est devenu un grand sujet d'inspiration pour moi. Et effectivement, placer des personnages féminins importants à des rôles importants et héroïques, c'est devenu une seconde nature sans que ça devienne une question vraiment...
C'est naturel, quoi.
Ouais, c'est naturel, voilà.
Et t'as déjà eu peur avec l'évolution, aujourd'hui, du féminisme, avec, évidemment, ses bons côtés, mais aussi ses mauvais côtés. Tu t'es déjà senti illégitime à te dire « Ok, je vais raconter l'histoire d'une femme ».
J'ai pas eu ce problème. Coup de bol, j'ai été entouré aussi par des féministes et des femmes féministes qui ont jamais fait grand cas de mon essence masculine. Donc là-dessus, je pense que je suis comme les gens qui... Tous les gens qui sont heureux vont te dire la même chose, ils ont de la chance. Et moi, je suis quelqu'un... J'estime d'être quelqu'un de chanceux là-dessus. Et je remercie toutes les personnes bienveillantes qui m'ont jamais essentialisé. Et je pense que c'est important de ne pas essentialiser aussi ces personnages. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas eu de mauvais retours. C'est que j'essaie de comprendre les personnages sans dire « Ok, c'est une femme, alors qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire ?» Non, en fait. Donc,
oui, tu ne penses pas forcément par le genre, mais plutôt par le personnage.
Oui, c'est ça, par ses capacités intrinsèques. Et je ne réfléchis pas en mode les femmes sont différentes, pourquoi Non, c'est pas vraiment important. C'est comme je disais tout à l'heure par rapport à la différence, c'est une différence. Elle existe, c'est biologique. On va pas dire le contraire. Mais est-ce que cette différence, elle est primordiale dans la construction du personnage? Je crois pas. Je crois que au contraire, on a tous la capacité à transcender notre condition initiale.
Avec Fosquill, tu as fait Funérailles, aujourd'hui avec ton dernier Tricloud, tu crées en fait un univers partagé, un peu ce qu'on peut voir avec du côté de Marvel ou côté de DC. C'était important pour toi de te dire « Ok, en France aussi, on peut avoir ça, j'ai envie d'avoir des ponts entre mes différentes histoires, de retrouver des personnages par-ci, par-là ».
Alors, je vais répondre oui et non. La bonne réponse. En fait, je ne pensais pas du tout... à faire un multiverse, c'était pas du tout mon objectif. Par contre, effectivement, je voulais parler de la pop culture. Je voulais faire une œuvre de pop culture qui soit française,
ouais.
Qui soit du coup plus personnelle, parce que moi, ce que je voyais des fois de la pop culture, je trouvais ça fascinant. Enfin, c'est, tu vois, les histoires de zombies, tout ça, les histoires, même Mad Max. Là, je parle de trucs post-apocalyptiques parce que c'est le sujet de Cloud.
Ouais.
Ou bien tout ce qui est bah tu vois la l'urban fantasy de Freak Squeal qui peuvent se rapprocher quelque part d'un Harry Potter.
Ouais complètement. Côté école, magie, voilà, élèves, ouais.
Tout ce côté ou sinon Naruto hein, tout simplement. Et ouais. Puis et de l'autre côté bah t'as Funérailles qui est le côté dark fantasy un peu manga, tu vois, un peu steampunk et au final Il y a toujours dans les récits une part de... On raconte quelque chose de notre société. Et tu vois, par exemple, tu m'as parlé du rôle des femmes. Et dans le rôle des femmes, quand c'est les Japonais qui s'en emparent, bah, il y a leur vision du rôle de la femme, qui est vraiment ce qu'il est. C'est-à-dire que bah, le Japon, c'est quand même un pays qui a une vision très patriarcale, très centré sur le dépassement de soi, mais le dépassement de l'homme, puisque la femme, par définition, va devenir maman dans ce truc-là. Et moi, ce que je vois en France, c'est que ben, je vois des femmes qui ne veulent pas devenir maman. Je vois des femmes qui veulent devenir autre chose, qui veulent devenir femmes d'action, femmes indépendantes, qui veulent sauver des vies, qui veulent être les héroïnes, qui veulent être des sportives. Et du coup, ben, j'ai envie de raconter ça. J'ai envie de raconter aussi une pop culture où on n'a pas la même philosophie de vie. Et c'est pas une question de jugement, c'est pas une question de dire notre mode de vie est meilleur. C'est juste montrer un mode de vie qui est différent et qui est le nôtre finalement, pour pas qu'il y ait une injonction en fait. Parce que l'injonction, elle peut, si elle vient, déjà quand elle vient de la famille, c'est compliqué, c'est lourd à porter. Voilà, en tant que membre d'une famille asiatique, tu vois, c'est un truc qui m'a beaucoup questionné. Quand tu fais partie d'un pays élitiste comme la France, ben c'est bourré d'injonctions aussi. Et quand en plus t'as cette pop culture qui est aussi bourrée d'injonctions, parce que tu vois, c'est des injonctions qui sont contradictoires parfois.
Ouais.
Ben, en fait, aujourd'hui, c'est plein de questions. C'est bourré de trucs super intéressants à décrypter. On est quand même dans un médium, la bande dessinée, où il n'y a pas beaucoup de comment dire, de diffusion. Et du coup, ça nous laisse le droit de raconter des choses aussi, ça c'est cool.
C'est important pour toi, du coup, que le médium de la BD au sens large soit libre.
Ah
et
oui,
que
oui.
Ça t'offre cette liberté-là.
Ah, mais c'est pour ça que c'est mon préféré, c'est parce que. Et ça, j'ai découvert au fur et à mesure. À un moment donné, moi j'étais fasciné par le cinéma. C'est pour ça que j'ai fait des études d'animation au Gobelin à Paris pour faire du cinéma, parce que je voyais les trucs de Miyazaki, je me disais, ah, c'est formidable, incroyable, tu peux raconter tellement de choses. Bah oui, mais il faut être Miyazaki pour le faire. Il faut être Miyazaki, il faut être un tueur, il faut être un mec qui sait tellement ce qu'il veut, qu'il est capable de péter les pieds, il est capable de casser les pieds à tout le monde dans un studio pour avoir la scène qu'il veut, le rendu qu'il veut, avec le personnage qu'il faut et qui raconte la chose qu'il veut. Et j'ai vu ça chez Run aussi, quand il a fait Mutafukaze, et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que c'était trop dur, que c'était vraiment... c'était un travail de titan. Ça lui a bouffé 8 ans de sa vie de faire Mutafukaze en plus de la bande dessinée, en plus de
gérer. Je parle vraiment du film d'animation qu'il a fait. Parce que c'est drôle parce que du coup Thomas, qui est mon monteur sur le podcast, qui est aussi un grand fan de comics, on s'est rencontré à mon club de lecture comics. Je lui ai dit, est-ce que tu as une question à lui poser à Florent? Et il m'a demandé, est-ce qu'il a définitivement tourné la page de l'animation? Est-ce que pour toi, tu vas jamais te dire que tu vas...
Ah non, mais je serais pas réel. Par contre, je serais pas réalisateur de mon propre univers au cinéma. Mais par contre, si quelqu'un veut le faire et que on se dit, ouais,
t'accompagnerais le projet, ouais. Quoi. Ok.
Bah, si humainement ça passe, si on est sur la même longueur d'onde, là il y a aucun problème. Parce que moi, je viens de l'animation justement, et je sais qu'un projet, ça se prête. T'es pas le seul dépositaire de ton projet. Et de toute manière, la BD, elle sera toujours là. Donc les gens qui trouveront l'animé pas fou, ils pourront toujours dire bah, l'animé, la BD, c'était mieux. Et ceux qui trouveront la BD moins bonne, bah, ils pourront toujours préférer l'animé.
Ouais,
ça, c'est pas un problème. Je me dis, voilà, il en faut pour tous les goûts. C'est une question de médium. Je sais qu'il y en a qui aiment pas lire des BD, c'est tout.
Oui.
Voilà,
oui, il en faut pour tout le monde, quoi.
Ouais, c'est ça.
Dans ton dernier titre, t'abordes le post-apo de manière assez joyeuse. T'en as marre de la déprime dans ce thème-là?
J'en ai marre, pas de la déprime, j'en ai marre de la psychose et de la...
De la peur, finalement,
ouais, de la
qu'on
peur.
En, que, qu'engendre la post-apo.
Ouais.
Ouais, okay.
Ouais, parce qu'en fait, c'est à travers la science-fiction, le post-apo, on questionne le futur et on questionne aussi notre capacité à affronter ce futur. Quand t'es toujours dans un futur qui est sombre et rempli de loubards qui veulent ta peau, à un moment donné, t'as peur. Et c'est tout con, et moi j'aimais bien les trucs de zombies. D'ailleurs, je les aime toujours. Hein. Tu me mets devant un film de zombies, je kiffe en général. Hein. Moi, je me marre bien et tout. Ah, la tête explose, c'est marrant, hein. Trop drôle. Mais tu vois, à un moment donné, il y avait de la littérature zombie qui sortait, et puis on m'avait offert ce truc, la guide de survie dans un
cas d'invasion zombie. Ouais, ouais, je connais, ouais.
Et je le lis. Et à un moment donné, je lis ce truc, et l'auteur, il dit alors attention, observez votre voisin, parce qu'on sait jamais, c'est peut-être un zombie, et il faut que vous soyez prêt à le tuer, quoi. Je me dis, mais ils sont tarés, en fait. Les gens qui écrivent ces machins-là, ils sont fous. Je sais qu'il y a un second degré. Je perçois, c'est normal. Mais même au second degré, à un moment donné, tu ne dis pas des choses comme ça aux gens parce qu'il y en a qui vont le prendre au premier degré. Et là tu réalises à quel point la culture et la pop culture, c'est important parce qu'on a une responsabilité en tant qu'auteur. Et même pour rire, il y a des choses que soit tu débunkes très vite et tu dis « Ok, c'est pour rire, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pour rire. » Ne vous armez pas en attendant que l'invasion zombie arrive et en observant votre voisin comme en l'épiant en attendant qu'il devienne fou. Non, bah, en fait, votre voisin, il peut être votre ami, ça peut être la personne qui va être la première à vous filer un coup de main en cas d'invasion zombie. Donc pourquoi est-ce qu'on part tout de suite dans ce postulat ? Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas envie de sombrer dans une culture qui n'était pas la mienne. Dans une culture aussi de l'arme qui n'est pas la mienne, de l'arme à feu.
Ouais.
Moi, je grandis en France. En France, on a une culture de la chevalerie, on a une culture de l'arme blanche, du couteau, éventuellement de la chasse, mais pas tellement plus, quoi. Tu vois, c'est pas. On n'est pas sur. L'autre jour, je regardais, c'était marrant, dans les frères Sun, il y a un mec qui part en taule, et puis quand il sort de la prison, bah, on lui rend son arme à feu, quoi. Je me dis, attends, c'est drôle quand même. En France, voilà, l'arme à feu, c'est impensable. Tu fais une connerie, on te la confisque, quoi. Et voilà, c'est une culture qui est intéressante, que je trouvais fascinante et qui a rempli ma jeunesse aussi, parce que bon, en dehors des BD, ben, je regardais beaucoup de films très réganiens. Hein. Mais en dehors de ça, c'est pas pour ça que j'ai envie de remplir mes BD de surpuissance masculine avec des gros flingues. Mais bon,
peut-être qu'on en a déjà assez vu aussi.
Oui, bah moi en tout cas, j'en ai assez vu. Après ça, tu peux écrire des bons trucs avec des gros guns. Enfin, tu vois, Tafukaze, c'est des gros guns, c'est des mecs qui se tirent dessus, mais pour autant, ça raconte quelque chose de la masculinité aussi.
Ouais,
c'est hyper intéressant.
Complètement. Ouais. Ouais. On évolue du coup dans ta carrière et tu as pris des nouvelles fonctions au Label 119 en étant associé avec Guillaume Saint-Gelin, Mathieu Pablé, côté drone. Comment tu as appréhendé du coup ce nouveau poste?
On a fait surtout ça dans l'urgence. En fait, il fallait sauver le Label 619, il fallait créer une nouvelle dynamique et du coup, tu réfléchis pas, en fait,
ça devait se faire là, maintenant, quoi.
Ouais, ça devait se faire. En fait, il y avait l'un de nous qui était dans la difficulté, on a levé les boucliers et on a marché avec lui, quoi. C'est tout. Enfin,
ça aide beaucoup aussi que vous soyez proches, j'imagine, dans la vraie vie.
Oui,
vous
c'est l'aventure humaine,
bien,
comme
ouais.
Je te disais tout à l'heure. Mais tu vois, Ron a beaucoup mouillé le maillot pour nous. Pour le label, tu vois, par exemple, peut-être moins de mon côté parce que j'ai eu toujours ce bol de tomber très vite sur mon public.
Ouais.
Mais tu vois, si tu remontes la carrière de Guillaume Saint-Gelin et celle de Mathieu Bablé, il y a toute cette période où ils n'étaient pas très vendus. Et on parle souvent de Titeuf, tu vois, l'auteur Zep qui est vendu à 5000 exemplaires jusqu'au tome 5 de Titeuf. Et son éditeur qui tient le coup et qui dit non, mais j'y crois, moi. Allez, on fait le tome 5 et là, ils vendent à 100 000, 1 million, je ne sais plus quoi. Ben, Run, il a eu ce rôle d'éditeur et d'ami d'accompagnement qui a fait qu'aujourd'hui on est un label et on est voilà, donc du coup quand il a fallu serrer les coudes, ben, on a fait ça, on a pensé pas poser de questions, donc ouais, ben, effectivement c'est difficile, ça vient rajouter du boulot sur le boulot et moi des fois je me sens illégitime dans ce rôle d'éditeur, des fois j'arrive à trouver, oui, parce qu'en fait j'ai aujourd'hui, j'arrive plus à trouver ma place en tant qu'éditeur plutôt qu'en tant que créateur, co-créateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les titres que je vais lancer en tant qu'éditeur, c'est aussi des titres sur lesquels je suis scénariste et storyboarder. ou pas storyboarder, mais plutôt là, du moins, on prépare un titre avec des sirènes, des glingos avec Alan Va qui est au dessin. Là-dessus, bah, comme il est en Côte d'Ivoire, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire le storyboard. Il y a un titre de Viking qu'on prépare avec Ludo Chesneau et là-dessus, on se pose encore la question, est-ce que je serai storyboarder ou pas ? Bon, bah, c'est un truc que je laisse à sa discrétion et je vois avec lui s'il est plus simple que je bosse en tant que storyboarder ou si juste le texte, ça y aura bien. Enfin bref, c'est difficile d'établir ce genre de choses. Mais disons que je me projette plus en tant que co-créateur que pur éditeur. Parce que pur éditeur, c'est très très dur. Tu sais, c'est un éditeur, c'est un métier, je crois, qui est très méconnu en France. Les gens comprennent pas trop ce que c'est que c'est d'être éditeur. T'es pas juste imprimeur et t'es pas juste diffuseur. En fait, t'es aussi co-créateur quelque part. On le voit plus dans les mangas, c'est-à-dire ce rôle de tantos, de personne qui vient parfois donner l'impulsion au mangaka pour que la BD, le manga se fasse dans quelque chose qui lui permettra à l'auteur de s'épanouir. Mmh. En France, on a l'impression que l'auteur est tout puissant, parce qu'en fait, on cultive ce romantisme autour de l'auteur qui est tout... qui est le créateur...
omnipotent, omniprésent.
Ouais, c'est ça, voilà.
Ouais.
Et on oublie souvent le rôle de l'éditeur qui vient vérifier les dialogues, qui vient poser des questions au niveau du scénario, au niveau de la narration, du storyboard, qui vient accompagner chaque instant de la BD et parfois qui transforme un jeune auteur en auteur confirmé. Et ça, c'est très difficile. Je pense qu'il faut des ressources que moi, je n'ai pas forcément. En tant que scénariste, dessinateur, il faut aussi des ressources que j'ai pas parce que je suis créateur moi aussi et parce que j'ai peu de frustration par rapport à ça. Et justement, il faut avoir cette frustration de se dire, ok, je veux créer un livre parfait, un livre vraiment bien avec cet auteur.
Ouais, comme t'as les autres casquettes aussi,
ouais,
t'as d'autres
ça.
Visions quoi.
Ouais. Du coup, voilà, c'est ça. Ouais. Je me sens pas frustré par mon incapacité à raconter quelque chose, juste par le temps.
Okay.
Voilà. Et ouais. Du coup, effectivement, c'est pour ça que ça me pousse à bosser avec d'autres personnes aujourd'hui, parce que je me rends compte que j'ai plein d'idées en tête et que j'aurais pas le temps de le faire de mon vivant si je bosse pas avec d'autres personnes quoi.
Ouais, c'est chouette aussi.
Oui,
c'est cette
cool.
Belle collaboration.
C'est super intéressant. Ouais.
Un petit mot sur l'expo. Du coup, tu as préparé l'exposition Freak Show à la galerie Momi. Tu travailles globalement au numérique, mais tu as aussi, pour l'expo, travaillé un peu sur du traditionnel. Tu es revenu un peu sur du traditionnel avec des originaux.
Ouais.
C'était comment de faire le passage un petit peu, de revenir un peu sur le travail tradi?
Bon, c'est assez naturel, hein, j'ai envie de te dire. J'ai pas succombé non plus. Enfin, pour le numérique, j'ai pas non plus succombé à l'attrait de faire tout numérique et de me balader avec un iPad constamment. Parce qu'en réalité, j'aime bien encore tâter, faire du crayon, faire un peu d'aquarelle. Et je trouve ça assez gratifiant de remplir des carnets. Chose que je faisais pas avant, c'est ça qui est assez marrant. Mm. Et je pense surtout, il y a un truc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent, les lecteurs, ils comprennent que. L'œuvre, elle apparaît pas de manière magique.
Ouais.
Et t'appuies pas sur un bouton, quoi. Et que quelqu'un qui fait du numérique, en réalité, c'est quelqu'un qui fait aussi du tradi. C'est pas
ouais.
Inversement,
c'est peut-être
pas...
une méconnaissance aussi du travail tradi, du travail numérique, de
oui,
se dire
c'est
ouais, facile parce que c'est une tablette et que
mais oui,
ça
mais
se
mais
fait tout seul.
Encore une fois, c'est une image qu'on entretient en tant qu'auteur.
Ouais.
On entretient entre guillemets la magie. Donc on montre pas tous les process. Mais comme on entretient la magie, ben du coup, les gens pensent que... tu vois, par exemple, l'autre jour, j'ai encore vu un making-of de couleur. Je me suis dit, mais c'est débile, ce gars. Il te fait la couleur et ensuite, il te met un gros calque blanc et il l'efface. Et puis, il dit aux gens, regardez, je fais de la couleur juste en passant mon stylet là. Mais non, en fait, t'as fait de la couleur à l'avance. T'as fait tous tes calques. Et là, t'es juste en train d'efface le cache qui...
tu utilises une fonctionnalité du
voilà.
Logiciel, quoi. Mais,
voilà,
ouais,
mais,
ouais.
Mais tu fais un faux making-of. Et ça, c'est les faux making-of, ça a été une catastrophe. Les gens ne comprennent plus rien. Et donc aujourd'hui, ils se disent, bah maintenant, il faut faire juste un prompt que même ChatGPT va te générer. Et ensuite, tu le fais bouffer à Midjourney et il te sort des belles images plus belles qu'aurait pu faire un artiste. Non, en fait, c'est pas de l'art. L'art, c'est quand tu as un message, quand tu as quelque chose à raconter, quand tu as...
Un point de vue.
Ouais, un point de vue. Et que tu veux transmettre quelque chose.
Ouais.
La machine, elle transmet rien du tout.
Ouais.
La machine, elle transmet...
Ce que tu lui demandes de transmettre.
Oui, et encore, c'est même plus compliqué que ça. En fait, je pense que c'est trompeur de dire ça. Elle ne transmet pas ce que tu lui demandes de transmettre. Elle copie d'autres œuvres qui transmettaient à peu près la même chose que ce que tu lui demandes. Et au final, toi-même, tu crois avoir demandé ça à la machine, Mais finalement, c'est elle qui impose visuel.
Ouais. Oui.
Et les gens, la plupart du temps, tu verras, c'est ceux qui adorent les prompts ChatGPT, enfin créer de l'art, entre guillemets, de l'art d'IA. Souvent, c'est des gens qui vont dire « Ah, mais c'est plus beau que ce que j'imaginais. » Alors que nous, justement, en tant que créateurs, on imagine quelque chose et on se bat comme on peut pour que ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire que...
Ça l'est jamais vraiment ?
Non, ça l'est jamais vraiment. Tu n'es jamais complètement content de ton dessin. Et par exemple, on va encore revenir à Run. Run, c'est quelqu'un qui est extrêmement frustré par son dessin. C'est pour ça que c'est un bon éditeur. C'est un très bon éditeur parce qu'il n'aime pas se voir dessiner. Il est frustré par sa capacité à représenter ce qu'il avait en tête et ses ambitions. Et il est très ambitieux. Et c'est marrant parce que du coup, ça fait lui le plus ambitieux du label. Et c'est grâce à lui qu'on dépasse aussi nos propres ambitions. Nous, souvent, ça, tu vas demander si tu as Mathieu Babelet ou Guillaume Saint-Gelin, tu verras qu'ils ont des ambitions qui sont proches des miennes. C'est-à-dire, on est content, on a fait une BD, voilà, c'est cool. Non, Run, lui, il voit plus loin. Il voit vraiment il voit un truc. Et ça, c'est hyper intéressant de bosser avec quelqu'un comme ça. Et tu vois, c'est là la différence avec l'IA. L'IA, tu te laisses limiter par la machine. Et l'humain, c'est le contraire. Ah, tu veux aller plus loin, tu veux bouger les lignes, tu veux casser des codes. Et tu veux créer quelque chose que tu n'as pas encore vu.
Oui.
Et tu vois, c'est ça la différence.
Mais de toute façon, pour tous les interviews que j'ai fait avec les différents artistes, que ce soit scénariste ou dessinateur ou dessinatrice, c'est le même message que l'IA ne dépassera jamais le travail artistique. Oui,
mais c'est normal parce que c'est tout bête, mais c'est notre gagne-pain. Hein. Enfin, on va défendre aussi notre truc, bon, il faut que les arguments soient recevables. Et moi, je pense qu'effectivement, nos arguments sont bons.
Oui.
Maintenant, il faut que les gens comprennent ça. Ça veut dire que chaque image qui est générée par IA, il faut absolument qu'il y ait un logo IA. Quoi,
et
pour
oui,
que les gens comprennent.
Oui.
Sinon, c'est catastrophique. Là, les gens comprennent plus.
Je suis d'accord, ouais.
Ils savent pas si c'est un montage photo, ils savent pas si c'est une IA, ils savent pas si c'est créé par quelqu'un qui derrière a une vision. Donc là, c'est terrible.
Malheureusement, faut que je te quitte dans pas longtemps parce que tu as un live drawing.
Ouais,
mais dernière
marche.
Question, parce que je finis toujours le podcast comme ça. Question sur les réseaux sociaux, parce que je viens de la com. Est-ce que tu as les réseaux ? Est-ce que tu as
j'ai
Facebook,
un peu de réseau sur Facebook, surtout.
Et comment tu l'utilises ? Est-ce que tu réfléchis un peu à ta communication ou juste tu poses des trucs et...
J'ai plutôt tendance à réfléchir en termes de communication parce que je ne l'utilise pas comme un truc perso, vraiment.
Okay.
C'est-à-dire que...
c'est pro, quoi. Tes réseaux, c'est pro.
Alors, c'est sous mon nom personnel, et donc Florent Modou, mais c'est pro. C'est-à-dire que... Je vais pas l'utiliser pour parler de mon quotidien parce que mon quotidien c'est aussi celui de ma femme que voilà par pudeur je m'étale pas dessus et des fois en plus j'ai tendance à être feignant dessus donc j'ai tendance à poster des trucs trop tard mais je vais essayer d'annoncer par exemple des sorties des séances de dédicaces ou bien par exemple le live drawing comme aujourd'hui quoi.
Et ouais dans une minute.
Ah, très bien il faut chauffer les pinceaux.
Non mais c'est vraiment un plaisir de te rencontrer
merci,
de
Alexandra.
Discuter avec toi et puis de toute façon on te dit à bientôt dans un nouveau projet. Je pense que le prochain ça va être la suite
tout à
de
fait.
Cloud
ou
d'autres
puis,
titres
si il y a d'autres trucs qui vont sortir
ouais bah ouais, ouais, ouais. Oui, je me doute. Merci Florent et puis je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Salut.